Bonsoir.
Bonsoir, nous vous saluons. J'ai ici un certain nombre de questions. J'essayerai juste de vous donner un aperçu du genre de questions. Il nous est conseillé de nous abandonner à l'énergie cosmique du grand homme. Notre volonté doit tendre à un but unique d'amour. Comment ? Pratiquement, opérer un lâcher prise de la volonté tout en améliorant notre état de conscience. Où se trouvent les pièges de notre volonté ? Comment reconnaître les différents niveaux de notre être tout en les unifiant ? Il nous est demandé de purifier notre ego. Cela ne se fait pas sans douleur. Faut-il donc que la vie soit douleur, sacrifice et renoncement ?
Voilà une longue conversation en perspective. Mais avant de la commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue, non pas simplement au cœur de ma parole, mais aussi au creux de mon cœur, pour que la communication ne soit pas simplement quelque chose qui va de l'esprit à l'esprit, mais que ce soit plutôt une vibration qui sache aller réveiller votre vibration principale, que l'on peut appeler votre feu de vie, par exemple. Donc, comme je le dis au début de chaque conversation, surtout, ne me prenez pas pour un guide qui a pour but et pour volonté d'enseigner les peuples ou d'enseigner un village ou un pays. Ce n'est pas du tout mon intention. Je ne suis pas là pour apporter quelque chose qui doive définir une nouvelle sagesse, qui doive constituer un nouveau monde. Tout au plus, si je suis là, c'est uniquement pour apporter à ma manière, car il s'agit bien de cela, il ne s'agit que de ma manière, et ma manière ne regarde que moi. Tandis que d'autres frères œuvreront d'une manière différente. Mais donc, à ma manière, ce que je fais, c'est simplement apporter une étincelle, si cette étincelle peut être reçue. Donc, je n'ai absolument pas l'ambition de vous enseigner. Comme je le dis si souvent, je ne veux pas enseigner. Je ne prétends même pas pouvoir enseigner qui que ce soit. Tout simplement parce que la vérité profonde, ce que l'on appelle la sagesse tout simplement, ne peut pas être enseignée. Il est impossible de dire à quelqu'un « la sagesse est ceci, la sagesse est cela, la vérité c'est ceci et cela » que tu trouveras au bout de l'action si tu fais ceci et cela. La vérité ne peut pas être décrite, la sagesse ne peut pas être apportée. Tout simplement parce que sagesse et vérité, non pas que ces termes-là soient au-delà des mots ou au-delà de l'intellect, mais tout simplement parce que sagesse et vérité sont au-delà de l'endroit de la vie humaine et de la vie physique traditionnelle. Si donc vous voulez trouver la sagesse et la vérité, il n'est pas utile de venir m'écouter, vous ne la trouverez pas. Vous ne trouverez aucune sagesse et aucune vérité. Par contre, vous trouverez en moi quelqu'un que l'on pourrait même parfois appeler comme un personnage agressif ou un personnage quelque peu ambigu, un personnage combatif et combattant, un personnage acharné qui veut arracher hors de l'homme tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Quand je donne donc un enseignement, je ne vous donne pas quelque chose ou un matériel ou des principes auxquels vous devez croire. Je n'appuie pas du tout mon travail sur les bases de la croyance et de la référence. Tout ce que je donne, si je suis capable de donner quelque chose, c'est simplement la possibilité pour vous-même de savoir vous dépouiller de vous-même. Et c'est là que je vais amorcer ma réponse à la question posée en ce qui concerne l'évacuation de l'ego inférieur au profit de l'adombrement de la volonté de l'âme qui, elle, suit parfaitement la volonté du plan, qui lui-même suit parfaitement le dessein de Dieu. Quand il s'agit donc de vouloir évoluer, de vouloir servir à quelque chose pour les autres hommes, ou bien de vouloir servir à quelque chose pour un maître ou pour un dieu. Qu'est-ce que ce maître ou qu'est-ce que ce dieu attend de l'individu qui s'offre de la sorte? Qu'est-ce que le plan attend du disciple? Le plan ne va pas simplement attendre du disciple qu'il ait une bonne volonté, comme on dit si facilement. Il ne va pas non plus attendre du disciple qu'il soit orienté vers le bien, vers le positif, vers la générosité, vers les idées du nouvel âge, du nouveau monde, de l'écologie, de la nouvelle alimentation, de l'écobiologie, etc. Tous ces sujets sont des sujets fort intéressants, mais ce ne sont que des sujets annexes d'une chose qui doit être visée en premier et avant tout. Ce qui doit être visé en premier et avant tout pour que tout le reste existe, c'est avant tout viser en soi-même la création d'une certaine réalité. Autrement dit, le disciple quotidien, le disciple que l'on peut rencontrer à peu près partout et qui est disciple non pas simplement ou seulement parce qu'il fait quelque chose d'apparemment divin, mais tout simplement parce qu'il est un brave homme ou une brave femme. Donc je mets dans les disciples les individus de bonne volonté et qui ont un côté humain très largement développé dans les aspects positifs. Donc pour ce genre de disciple, être bon, être humain, être équilibré, être droit, être moral, être des personnes à principe, pour ce genre de disciple, donc, être tout cela ne va pas suffire pour devenir un agent exécutif du plan ou pour être capable d'assumer certaines responsabilités ou d'émettre un certain rayonnement. Rayonnement qui à son tour sera capable d'effectuer ou certains changements ou bien certains exorcismes dans les archaïsmes et les limites des hommes. Ce que le disciple doit cultiver en premier, avant les qualités nécessaires pour effectuer le service qu'il a choisi ou qu'il sait lui revenir, le disciple doit donc avant tout cultiver sa propre réalité intérieure. S'il n'a pas pris dans une certaine mesure connaissance et créé une connexion avec la réalité intérieure, il ne va pas pouvoir effectuer tout ce que le plan attend de lui. Et non seulement le grand plan, mais encore moins le plus petit plan. C'est-à-dire que les choses les plus grandes, comme les choses les plus petites, ne pourront pas être faites. Car il aura encore plus de mal à imaginer comment est-ce qu'il peut faire les petites choses, plus que ce que le disciple aura de mal à imaginer comment il doit faire les grandes choses. Les grandes choses sont assez faciles à imaginer car elles correspondent à l'élan d'une vision, l'élan d'un idéal. Cependant, les petites choses qui doivent être faites et qui servent de base ou d'entrée du plan dans le monde, ces petites choses-là sont tout aussi importantes car c'est le point de cristallisation du plan et du royaume qui ainsi peut un petit peu mieux s'implanter sur la terre. Donc le disciple apparemment saura très bien parler des grandeurs du plan. Imaginer la grandeur de Dieu, faire des choses par générosité et envergure d'esprit. Mais lorsqu'il s'agira d'effectuer le royaume sur la terre et à l'encontre des principes mêmes de la terre, à ce moment-là, le disciple risque d'éprouver certains problèmes et voire même d'échouer. Donc, vis-à-vis du plan, de l'exécution du plan, ce qui est le plus compliqué à comprendre pour le disciple, ce n'est pas en tout cas la volonté de Dieu. Tous les hommes de bonne volonté comprennent à peu près ce que Dieu veut pour les hommes ou ce que les maîtres souhaitent pour les hommes. N'importe quel être bien intentionné sait que ce qui est bon pour les hommes, c'est la liberté, c'est la générosité, le partage, le soulagement des maladies, des morts difficiles, la tolérance entre voisins, la tolérance entre religions, entre idéologies, etc. Tous les hommes ayant suffisamment de sens fraternel ou un petit peu d'amour ou d'évolution arrivent à comprendre cela. Ce qui est par contre beaucoup plus compliqué à opérer, beaucoup plus difficile à comprendre, c'est comment cristalliser tout ce bien qui est bien conçu, Comment arriver à cristalliser tout ce bien dans une forme terrestre, dans une forme sociale, dans une forme professionnelle, dans une forme institutionnelle, etc. Là est la grosse pierre d'achoppement. À ce moment-là, le disciple a comme perdu son imagination, il se trouve confronté à ce qu'il croit être bien, à ce qu'il croit être mal, et tout le bien qu'il pense comme venant de Dieu se trouve par là même confronté à tous les principes intérieurs du disciple. Il y a donc, et à ce moment-là je reviens à la question qui a été posée, il y a donc les grands principes divins tels que la paix, l'amour, le partage, etc. Et il y a les principes humains. Ces principes humains sont des principes qui évoluent, qui changent et qui sont conditionnés par l'évolution d'une société, l'évolution d'une philosophie et d'une culture. Le travail du disciple donc sera de se défaire du conditionnement de cette société, du conditionnement d'une certaine idéologie que transporte la société et se défaire de la culture, pour n'être en vérité que le réceptacle des principes divins. Autrement dit, il lui faut se dépouiller de tous les arguments qui alimentent sa volonté personnelle, son statut personnel, ses petits désirs personnels, ses obligations, ses visions personnelles, au profit des grands principes que l'on peut appeler divins, mais que nous appelons tout simplement les principes de liberté et de vérité, les principes de l'être. Quels sont donc les principes mineurs ou inférieurs dont doit se débarrasser le disciple s'il veut être adombré complètement par les principes majeurs, soit les principes du plan? Le disciple doit d'abord se dépouiller de tout ce qui crée en lui une quelconque source de conflit, que ce soit vis-à-vis de l'énonciation de la vérité. Est-ce que je vais employer la parole? Ou est-ce que je vais employer le geste? Ou est-ce que je vais employer la visualisation? Ou est-ce que je vais construire des groupes de méditation? Ou est-ce que je ne vais rien dire, rien faire et simplement rayonner depuis ma maison? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que le maître fait? Qu'est-ce que le guide souhaiterait? Et ensuite, lorsque l'individu a choisi quel mode d'expression, il va se dire, est-ce que je le fais vis-à-vis de 10 personnes, vis-à-vis de 100 personnes? Est-ce que je le fais en étant humble? Est-ce que je le fais en étant puissant et en forçant les autres? Et ainsi de suite, de nombreuses questions que je ne vais pas énumérer jusqu'à la fin, mais de nombreuses questions de tout ordre s'éveillent dans l'esprit du disciple. Et lorsque le disciple est assailli par toutes ces questions, il fait le choix, par ses propres principes moraux, ses propres principes civiques, il fait le choix de ce qui doit être fait selon ce qu'il pense qui est bien, qui est recevable ou qui est mauvais. On ne peut pas savoir ce que Dieu ou ce que le Maître espère faire à travers vous ou à travers soi si l'on va vers la volonté de Dieu ou la volonté du Maître, la volonté de la hiérarchie, avec les valises pleines de conditions. Même si vous allez vers la hiérarchie pour vous offrir afin de faire un travail, même si vous y allez les valises vides, de toute façon, elles seront remplies de conditionnements. Le conditionnement de la société, des nécessités sociales, des nécessités culturelles, des nécessités de la diplomatie, d'une certaine tactique. Donc il n'est pas nécessaire que vous-même vous chargiez les valises avec ce qu'il vous plaît de faire et comment il vous plaît de faire la chose. Vous devez absolument vous dépouiller des jugements que vous seriez capable de commettre vis-à-vis de vous-même et de votre propre technique de travail. Que ce soit pour faire du bien de façon publique ou de façon invisible, ou que ce soit pour faire du bien simplement à votre voisin, ou à votre compagne ou à votre compagnon. Vous devez simplement apprendre à laisser passer ce qui est essentiel, c'est-à-dire avant tout l'expression. Et par là même, lorsque l'expression sera tombée en vous, vous devez aussi laisser cette expression choisir ses modes d'expression et de manifestation. C'est-à-dire que lorsque vous voulez annuler, écarter la volonté de l'ego inférieur, car c'est de cela qu'il s'agit, il ne suffit pas de s'ouvrir simplement à la volonté de l'ego supérieur ou du maître ou de la hiérarchie ou de Dieu, recevoir et ensuite décider de comment cela doit être distribué. Vous devez faire un effacement qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous devez vous abstraire suffisamment pour recevoir ce qui doit être fait ou dit, et vous devez continuer cet effacement pour savoir ce qui doit être dit ou fait, ce qu'il a envie d'exprimer, ou comment la chose a envie d'être manifestée. C'est-à-dire que vous allez devoir être suffisamment absent pour que votre entité spirituelle puisse écouter ce dont l'autre qui est en face de vous a besoin pour être persuadé ou pour être réveillé. Ce n'est donc pas vous qui devez choisir de quelle manière vous allez faire le travail. Laissez l'autre vous dire de quelle manière il a besoin d'être réveillé, d'être stimulé. Et ceci, vous ne pouvez le comprendre que dans la mesure où vous faites une écoute vis-à-vis de la hiérarchie pour recevoir ce qui doit être dit, et ensuite une écoute vis-à-vis de celui qui doit recevoir pour savoir comment cela doit être dit. À ce moment-là, vous qui êtes l'intermédiaire, vous ne représentez plus qu'une gorge. Une gorge dans laquelle il y a un va-et-vient, un dialogue entre celui qui a besoin de recevoir et celui qui a prononcé. Vous n'êtes pas donc un transmetteur. Lorsque l'on veut devenir un disciple actif, il faut absolument évacuer des termes qui construisent de mauvais concepts. Le disciple dit souvent « Je veux être un transmetteur de la lumière, un transmetteur de la volonté de Dieu ». Le mot n'est pas vraiment faux, mais il construit un concept qui très vite enferme l'individu dans une relation ciel et homme complètement fausse. Le disciple n'est pas un transmetteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui reçoit le haut et qui ensuite distribue vers le bas comme cela lui plaît ou comme cela lui convient. Le disciple est simplement le lit de la rivière, la gorge de la rivière, la matière que représente par exemple l'antenne. Mais l'antenne n'est pas l'endroit où le programme est rendu audible. L'endroit où le programme radio est rendu audible, c'est grâce à la radio et surtout au haut-parleur. L'antenne, elle, ne fait que recevoir l'onde. Le disciple est donc un être d'anéantissement. Celui qui n'est pas capable de s'anéantir ne peut pas travailler pour Dieu. Bien sûr, tout le monde peut travailler pour la hiérarchie ou pour Dieu, nommez la chose comme vous voulez. Tout le monde va pouvoir faire un acte de bonté, un acte lumineux un jour ou un autre, un acte nécessaire à quelqu'un. Tout le monde en est capable et Dieu merci, et c'est là-dessus que comptent énormément de guides et énormément de maîtres pour faire avancer les choses malgré les hommes. Cependant, puisque l'on m'a demandé comment être un disciple intelligent et un disciple actif et un disciple responsable, alors je dis qu'avant tout, il faut être capable de s'anéantir soi-même et de ne plus faire passer ses désirs ou sa volonté ou sa vision de ce qui est bon pour les hommes. Il faut tuer toutes ces considérations et tous ces paramètres et être seulement le lit de la rivière. Comment s'y prend-on ? On s'y prend d'une façon très facile. Tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est vérité est très facile. Et c'est pour cela que l'homme n'arrive pas à appliquer ce qui est lumineux, ce qui est divin, ce qui est spirituel. Parce que l'homme a la fâcheuse manie, à cause de l'activité de son mental, de l'agitation de ses émotions, l'homme a la fâcheuse manie de tout compliquer. Et non pas parce qu'il est un être à la base complexe, mais tout simplement parce qu'ayant échafaudé des principes, des mesures, des paramètres, des compas, des triangles, des tours, des contours et des détours, une chose qui est à l'origine très simple devient extrêmement compliquée. Alors ce qu'il faut pour être instrument de la lumière, c'est apprendre à être aussi simple que la lumière. Un disciple authentique n'est jamais un être compliqué, un être torturé par ce que je dois faire, comment je dois le faire. J'arrive, je le fais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien prévoir. Il faut prévoir ce qui appartient au monde de la prévoyance, c'est-à-dire savoir établir un minimum de base pour que ce qui est en apparence, en appartenance au monde matériel, puisse s'effectuer. Mais le reste ne doit pas être un souci, ni une préoccupation, ni tomber dans un prédéterminisme. Sinon, c'est comme si le disciple faisait quelque part le travail de Dieu, comme si Dieu n'était pas capable de le faire lui-même. Il précède Dieu, et dans ces cas-là, chaque fois, il ne sait pas comment le précéder. Il croit le savoir, et c'est pour cela qu'il le fait, mais généralement, il se trompe. Pour être donc un être d'anéantissement, il n'est pas besoin de pratiquer des choses hautement spirituelles ou de s'évertuer à faire mourir l'ego, ou bien de répéter des mantras, des phrases magiques pour mettre l'ego dans une petite cage, juste l'instant qu'il faut pour être disponible complètement pour la divinité. Lorsque l'ego réagit et qu'il a tendance à prévoir, à vouloir déterminer, à vouloir teinter la chose par sa propre volonté, il faut tout simplement que le témoin spirituel qui est en vous et qui est votre capacité de regarder votre personnalité comme étant une sorte de double de vous-même, un double indépendant qui s'agite loin de vous, il faut que ce témoin spirituel qui est votre conscience observatrice, il faut que ce témoin spirituel ait un grand sens de l'humour. Il n'y a que par l'humour que le détachement a lieu sans douleur. Il n'y a que par l'humour que le disciple finit par trouver la véritable simplicité qui lui permet non seulement de regarder et d'embrasser le visage de Dieu, mais en plus d'être disponible pour tous les hommes. Retrouver le sens de l'humour. Il est très important de retrouver le sens de l'humour. L'homme moderne, et surtout l'homme dit européen, l'homme occidental, cet homme-là est complètement perdu dans les dédales de son mental. Il prévoit, projette, imagine, fait des calculs, des comptes, des tours, des détours. Il a peur de ceci, il prévoit cela, au cas où. Automatiquement, il crée dans son astral une aura qui n'est pas simplement prévoyante, car en faisant ces choses, le disciple se dit « je ne fais qu'être un peu plus intelligent que les autres parce que moi, je prévois ». en fait, il sera moins intelligent que les autres. Parce qu'au moment où, par exemple, une circonstance ou un événement vont se présenter, qui vont réclamer l'intuition plutôt que la seule intelligence intellectuelle, à ce moment-là, le disciple ne saura pas résoudre le problème. Parce que l'intuition va être étouffée par l'épaisseur de son aura. Une aura qui, elle, est toute chargée par une projection incessante de soucis mentaux, de projections mentales. Donc, pour être un être simple, un être branché, comme vous dites vous-même, il faut apprendre, afin de recevoir, à être un pot complètement vide, un bol complètement vide, une coupe complètement vide. Ce qui ne veut pas dire que cette coupe doit être vide de toute existence, de toute tendance et de toute personnalité. Le vide dont je parle, dans ce cas précis, est complètement différent. Et c'est là où je rejoins la question qui a été posée. Il s'agit de vider la personnalité, ou ce qu'on appelle l'ego inférieur, de toute tendance inférieure, afin que l'ego supérieur puisse adombrer complètement l'être. Autrement dit, il faut petit à petit savoir évacuer les volontés inférieures pour n'être que l'incarnation de la volonté de l'âme, qui elle-même est l'incarnation de la volonté de la lignée initiatique à laquelle vous appartenez, soit à l'ashram, soit au temple auquel vous appartenez, pour ceux qui connaissent mieux ce mot-là. Ce temple est lui-même l'incarnation de la volonté du maître qui anime initiatiquement ce temple. Et le maître est lui-même l'incarnation de la volonté du logos planétaire, soit du roi du monde qui anime la planète Terre ou une quelconque autre planète. Ce logos est à son tour l'incarnation de la volonté du seigneur du soleil, soit le logos solaire, soit le roi du soleil, appelez-le comme vous voulez, qui lui-même est l'incarnation de la volonté d'un plus grand mystère, de l'être par-dessus tous les êtres, et qui, faute de mots ou faute de possibilités d'abstraction, les hommes appellent Dieu. Les ésotéristes et les philosophes l'appellent la vie une, la flamme de vie. Donc, appelez ce concept supérieur au-delà de tous les autres, comme vous voulez, peu importe. Nous sommes de toute façon si loin de la vérité qu'aucun mot ne peut être plus faux l'un que l'autre. Pour l'homme qui vit sa condition humaine, lorsque l'on parle de service, ou lorsque l'on parle d'initiation ou d'illumination, pour l'homme, il va s'agir donc de savoir chaque fois être l'incarnation d'une volonté plus grande. Ce qui ne veut pas dire que l'homme a pour but uniquement d'incarner ou d'obéir à une volonté, à une loi qui chaque fois vient d'un plan au-dessus de lui. L'homme n'a pas été conçu pour cela. L'homme n'a pas été fait pour obéir à une loi qui chaque fois se trouve au-dessus de lui. Pour comprendre ce qu'est la volonté de l'âme, la volonté du maître, la volonté du plan, la volonté du dessein et la volonté de Dieu, pour comprendre ce qu'est la volonté, il faut s'interroger un instant sur la constitution occulte de l'homme lui-même et sur la constitution occulte de l'univers entier. On ne peut pas comprendre le terme « volonté » si l'on ne connaît pas la nature profonde de l'homme et de tout ce qui vit dans le cosmos. Pourquoi volonté et qu'est-ce que la volonté? Lorsque l'on parle de volonté, notamment la volonté de Dieu, les hommes imaginent très vite qu'il existe un certain nombre de principes, de critères, de lois. et que la misérable créature qui se trouve sur le sol de la terre doit se plier à ses principes, doit se plier à ses lois et les exécuter. Et puis un beau jour, lorsque l'on a tourné toutes les pages de la vie et de l'incarnation sur la terre, arrive un jugement et ceux qui auront fait la loi seront sauvés et ceux qui n'auront pas fait la loi seront envoyés dans l'enfer. C'est ce que classiquement les esprits archaïques ou religieux, ce qui est la même chose, c'est ce que classiquement les esprits archaïques croient. Tout simplement parce que depuis que l'on a essayé de parler de Dieu, l'on a toujours cité un Dieu comme étant supérieur aux hommes, comme étant à l'extérieur de l'homme, et comme regardant l'homme, et comme jugeant l'homme. À partir du moment où l'on dresse le portrait d'un tel Dieu, il est normal que l'homme sente qu'il doit obéir à Dieu, exécuter les lois de Dieu et se plier sous le châtiment de Dieu. C'est tout à fait logique. Cependant, la vérité n'est pas du tout comme cela. Et celui qui veut devenir libre et contempler la lumière en face et être capable de dialoguer avec la lumière, celui qui veut cela doit absolument se débarrasser des archaïsmes. Archaïsme que je viens de citer. Qu'est-ce donc que la lumière? Qu'est-ce donc que Dieu? Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? La lumière est un état d'être. Et Dieu, qui est la lumière, est donc aussi un état d'être. Cet état d'être est le fond naturel de chaque chose. Et ce fond naturel exprime sa vie à l'extérieur, dans la manifestation, en rapport direct avec ce qui caractérise son état d'être. C'est-à-dire que, si l'on admet que toute chose est issue de Dieu, ou des hiérarchies créatrices suffisamment proches de Dieu pour avoir le droit de créer, si l'on n'admet donc que toute chose est issue de Dieu ou d'un ange créateur, il faut aussi admettre que toute chose contient la même nature que Dieu ou que cet ange créateur. C'est-à-dire que toute chose contient la plénitude, l'éternité grâce au renouvellement et à la perpétuité, que toute chose contient la perfection, la vision de l'idéal, la beauté, etc. Ce qui donc va être l'expression naturelle des choses ainsi créées, ce qui va être l'expression naturelle, ce seront justement les qualités citées de plénitude, d'éternité, d'amour, de perfection, de bien-être, etc. Ce qui, à un moment donné, va comme dévier l'expression naturelle de cet être profond, c'est uniquement la cohabitation avec une donnée que je ne peux pas dire qui n'avait pas été prévue, car la chose était prévue, elle devait être créée, cependant elle ne devait pas être utilisée par les hommes de cette façon-là. Les choses donc, les choses profondément naturelles, se trouvent déviées dans leur expression uniquement lorsque la créature se met à jauger et à juger ce qui lui plaît de ce qui ne lui plaît pas. Et cette faculté n'est pas autre chose qu'une donnée mentale et morale. Autrement dit, tant que l'homme ne vivrait que de par la connexion avec son fond intérieur, tant que l'homme vivrait de cette façon-là, il ne serait capable d'aucune distorsion de la lumière, capable d'aucune ombre, capable d'aucun mauvais geste, il ne serait capable d'aucune pensée qui va à l'encontre de l'ordre établi ou à l'encontre de Dieu. Par contre, sitôt que l'on admet que cet homme puisse avoir la liberté de se diriger lui-même, de faire ses propres choix, À partir de ce moment-là, en considérant le type de développement dont est capable le cerveau de la race que l'on considère, à partir de ce moment-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des énormes distorsions, à contempler que ce qui plaît à l'homme n'est pas forcément ce qui plaît à Dieu, et que nécessairement l'homme va faire ce qui est parfois à l'encontre de Dieu ou à l'encontre des autres hommes. Ce qui donc était l'instrument même de l'individualisation, car c'est cela que les entités sont venues chercher dans l'incarnation, c'est la capacité de s'individualiser afin de créer le feu immense de la puissance créatrice. Ce qui devait donc devenir l'objet puissant de l'individualisation est en même temps devenu l'objet que l'on pourrait nommer l'objet de la chute, en tout cas l'objet de la séparativité. Lorsque l'homme s'incarne, il n'a donc pas d'autre but dans un premier temps que de créer son individualité. Je vais expliquer ceci. Pourquoi l'individualité et le besoin de s'individualiser? Je vais décrire en quelques mots la situation de Dieu dans l'espace, soit de l'être unique dans l'espace. J'en ai déjà traité autrefois, mais je vais le répéter pour vous afin que vous ayez une vision à peu près totale du concept. Il y a donc Dieu en manifestation. Ce Dieu qui est en manifestation est avant tout une conscience. Et comme je le dis souvent, une conscience est rien d'autre. Cette conscience trouve dans la manifestation la grande chance de perpétuer son feu vital. C'est-à-dire qu'il y a la conscience divine d'un côté et il y a le feu qui dynamise cette conscience, qui perpétue cette conscience de l'autre. Seulement, il se trouve que ce feu ne peut être rencontré qu'à l'endroit où il est créé. Donc, dans la matière, car ce feu ne peut être créé que par la matière. Mais il ne faut pas croire que le feu soit l'électricité de la conscience ou la vitalité de la conscience. Il ne faudrait pas croire que ce feu appartienne à la matière et que la matière existe comme un antipode à la conscience de Dieu. Pour avoir une vision à peu près juste, il faut que je spécifie que la matière elle-même n'existe et n'est créée que par contraction d'un certain nombre de particules de la conscience de Dieu. Donc, en fait, si l'on voudrait savoir ce qui existe vraiment à l'origine de toute chose et à l'origine de l'univers, il faudrait se rendre compte qu'il n'existe que de la conscience. Cette conscience, au fur et à mesure de certains âges, cette conscience, à un moment donné, vit une secousse en elle-même. Exactement comme un enfant bouge soudainement dans le ventre de la mère. La mère n'a rien fait pour que l'enfant bouge. L'enfant n'a lui-même pas vraiment voulu bouger, c'est tout simplement la vie qui circule à travers lui qui le fait bouger et la mère ressent le mouvement. Dans l'être, dans la vie intérieure, dans l'être qu'est Dieu, il se passe la même chose. À un moment donné de son sommeil, comme l'on dit dans certaines religions ou dans certains textes sacrés, à un moment de son sommeil, la vie de Dieu, l'être qu'est Dieu, subit ce genre de secousse. Et pour lui, il s'agit de rencontrer l'enfantement. Il s'agit pour lui de vivre l'enfantement. Et c'est grâce à cet enfantement de lui-même dans la matière qu'il se perpétue en tant que Dieu éternel, en tant que fontaine de jouvence, en tant qu'énergie éternellement vibrante et vivante. Mais il ne peut connaître cette éternité qu'en passant à travers l'enfantement et le renouvellement que permet l'enfantement. Et c'est pour cela que l'homme enfante. Étant donné que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, si l'homme enfante, c'est bien parce que Dieu lui-même enfante et se trouve être enfanté. Sinon, il n'y aurait aucun moyen pour la race humaine d'enfanter, même si les anges se creuseraient la tête, se creuseraient la cervelle pour trouver un moyen de perpétuer la race, ils n'arriveraient pas à fabriquer le phénomène de l'enfantement. Parce que même si l'on est un ange extrêmement puissant, même si l'on est un Kumara extrêmement développé, on n'a quand même à disposition que les lois qui existent dans l'univers et rien d'autre. Donc, si l'incarnation existe sur la Terre, c'est parce qu'elle existe dans le cosmos aussi. Si l'enfantement existe sur la Terre, c'est parce qu'il existe dans le cosmos aussi, mais dans des dimensions et avec un sens, bien sûr, complètement différent. Autrement dit, dans la première étape, dans le premier pas de sa manifestation, Dieu s'incarne d'abord dans sa matière cosmique. C'est-à-dire qu'il se contracte, il fait un certain choix sur le nombre de particules qu'il va devoir sortir hors de lui-même, décentralisé de sa conscience, pour pouvoir compacter ces particules de façon suffisamment dense pour créer un champ d'atomes et dans ce champ d'atomes créer une matière qui puisse avoir un reflet jusque sur le plan physique. C'est sa première incarnation. Il se transforme, en tout cas une partie de lui-même, se transforme en matière. Et du principe divin qu'il était à l'origine, un principe divin que l'on pourrait qualifier de masculin, ce principe divin masculin devient un principe divin féminin. C'est le premier couple. Mais l'univers ne s'arrête pas là. Il n'y a pas simplement le dieu masculin et la déesse féminine dans l'univers. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a toutes les hiérarchies et à l'intérieur des hiérarchies, toutes les créations possibles, tous les règnes manifestés. Donc, une nouvelle fois, après avoir fait le premier pas, Dieu va devoir se démultiplier et créer d'autres couples. Des couples qui ne vont pas nécessairement s'afficher en féminin et masculin, des couples qui peuvent parfois même avoir allure d'androgyne, mais cet androgyne va comporter en lui-même le pôle féminin et masculin. Et ainsi, il va pouvoir être un endroit de création. Et c'est le cas, par exemple, du Kumara quand il s'agit de la création d'une planète. Car lorsque l'on observe la création d'une planète, si l'on cherche partout l'équivalent féminin du logos de la planète ou du Kumara de la planète, comme on dit, eh bien, on ne trouvera jamais. On ne trouvera jamais la contrepartie féminine du logos de la Terre, par exemple. C'est impossible. Même si l'on essaye de rendre une certaine note féminine à la Terre elle-même, on ne trouvera jamais l'épouse de Kumara. Tout simplement parce que Kumara porte en lui les deux énergies. Et il est capable d'être à la fois le mari et l'épouse. Et ainsi, il peut être l'endroit de la création d'une humanité. S'il n'était pas capable d'être ce type d'androgyna, il ne pourrait pas être l'endroit de la création d'une humanité. Car l'humanité elle-même serait tout simplement un objet scindé en deux. C'est-à-dire que tout ce qui est féminin appartiendrait à l'épouse et tout ce qui est masculin appartiendrait à l'époux. Et les deux règnes vivraient de façon complètement dissociée. C'est ce qui se passe lorsque l'on contemple la vie du premier couple que j'ai cité, c'est-à-dire le dieu esprit et la déesse matière. Ce couple vit de façon bien séparée puisqu'il n'y a pas un dieu qui assume l'androgyna, et c'est parce que ce couple vit de façon bien séparée que l'esprit se perpétue et que la matière se perpétue. Lorsque le couple n'est plus dissocié en couple homme-femme, mais que l'être redevient unique, même si c'est pour continuer à être un androgyne, mais qu'en tout cas il redevient unique, c'est à ce moment-là que l'univers entier est dissous. Donc, pour qu'il y ait une base au cosmos, il faut que l'esprit de Dieu, qui représente le pôle masculin, soit bien séparé de la vibration féminine que représente la matière. Ce qui ne veut pas dire que les deux aspects de la vie doivent être vécus de façon différente et séparée par l'esprit du disciple. C'est une loi qui doit s'effectuer pour que l'univers soit. Cela ne veut pas dire que cette loi doit être vécue comme telle dans les appréciations philosophiques et spirituelles. Car si le disciple vit dans une forme de séparativité, il ne pourra jamais atteindre en lui-même l'état d'androgyna qu'il doit atteindre. Car ce n'est qu'en ayant atteint cette forme d'androgyna qu'il peut espérer découvrir ce qu'on appelle tout simplement l'unité divine. Donc, il faut bien faire la différence.